est-ce la radio qui vous met à l'aise ?
Dans une des parties les plus sauvages du Dauphiné, s'ouvre la vallée du Kérard. 1000 mètres d'altitude, le Guil, petit torrent aux eaux pures, termine son cours en se jetant dans la Durance. À travers la combe de Kérard, il s'est creusé un lit profondément encaissé. Aussi, l'accès des vallées supérieures a-t-il été longtemps très difficile. Mètres, 1800 mètres, 2000 mètres, voici Saint-Véran. Ici, les coqs picorent les étoiles. Telle est la devise de ce village accroché au versant de la montagne. Saint-Véran jouit d'un record difficile à battre. C'est la plus haute commune d'Europe, 2040 mètres d'altitude. Outre l'instruction qui lui est donnée, la jeunesse apprend ici à maintenir les traditions artisanales millénaires. Et, de la pointe de leurs couteaux, les enfants gravent ces rosaces à six branches et ces multiples figures d'un art rural dont l'origine remonte aux premiers habitants du Kérard.
Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons aujourd'hui sur Radio Mélèze, la radio qui vous met à l'aise. Nous sommes José et Manuel, deux reporters du groupe composé de 8 personnes. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons visiter Samuel et Jean Brunet, donc, père
boutique,
et fils.
Leur boutique,
voilà.
Et donc, sculpteur sur bois.
À Saint-Véran, célèbre famille de Saint-Véran. Nous sommes presque arrivés, nous voyons l'écriteau artisan sculpteur bois, expo, vente, meubles, objets sculptés main. Nous allons prochainement entrer dans la boutique, voilà, c'est parti, on entre dans la boutique. Et voilà, bonjour.
Bonjour,
vous êtes bien Jean ?
Non.
Samuel, désolé. Donc voilà Samuel sur la radio Mélèze, la radio qui vous met à l'aise.
Depuis tout petit, donc j'ai commencé à gratter le bois, j'avais 7-8 ans. Bon, c'était gratter le bois au début. Voilà. Et puis après, petit à petit, après j'ai fait un cursus classique de scolaire. Mais j'avais toujours quand même quelques bouts de bois qui n'étaient pas loin. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je suis revenu. Donc au pays et puis faire le métier que mon père faisait.
On vous retrouve Manuel et José de Radio Mélèze, la radio qui vous met à l'aise dans la boutique de Samuel et Jean Brunet. Pendant que les interviews sont en train de se faire.
Alors là, nous pouvons observer donc dans le fond de la boutique une magnifique horloge qui marche
heureusement. Ici nous avons alors une multitude de petites boîtes avec un peu le même motif, donc des rosaces, voilà un motif qui se répète souvent dans les sculptures de Saint-Véran.
Et puis un tableau aussi d'un
paysan, c'est un Véranais sans doute,
qui est en train de labourer son champ
avec deux chevaux.
Alors ici il y a une sorte de dicton, on disait c'est 6 mois d'hiver et 6 mois d'enfer, en fait.
Ah ouais.
Voilà, parce que donc l'été, il fallait tout faire en six mois. Donc c'est-à-dire, semer, récolter, parce que l'hiver était long. Et du coup, les agriculteurs, parce qu'il y avait que des agriculteurs, en fait, ils profitaient de l'hiver pour réparer leurs outils agricoles, pour fabriquer leurs objets usuels qu'ils pouvaient décorer. Alors des boîtes diverses et variées, des coffres, après des meubles, les vaisseliers, voilà.
Donc à l'origine, ils n'avaient pas un métier, mais ils en avaient deux. Ils étaient et agriculteurs.
C'était pas un métier l'autre, c'était pour eux. Il faut se transposer, il n'y avait pas de tourisme du tout.
D'accord.
Là je vous parle même du 19e, hein, pas du 20e. C'était ils vivaient en autarcie et donc l'agriculture évidemment c'était leur métier,
oui.
Mais après l'hiver il fallait bien qu'ils s'occupaient, voilà, ouais. Donc du coup ils en profitaient pour pour justement repréparer la saison qui suivait. Oui. Mais bon, ils étaient quand même bloqués à l'intérieur. Il n'y avait pas, enfin, il y avait pas les sports d'hiver, donc voilà. Et donc, voilà, c'est ça. En fait.
Alors, nous poursuivons un peu la visite. Pardon, madame. Voilà, merci. Ici, je crois que c'est un plateau de dames aussi. Hein. Ou un plateau de, d'échecs, je ne sais pas. Plateau tout court, voilà. Des fruits en bois, oui. Oh là là, une chaussure en bois. Une chaussure en bois très bien faite. Une chaussure de randonnée, sans doute. C'est en bois. Ouais. En tout cas, ici, on peut dire que ça sent fortement le bois. Sans doute le bois de Mélèze. Ça tombe bien parce qu'on est là, Radio Mélèze.
La radio qui vous met.
Voilà.
Vous travaillez que sur le Mélèze ou sur des autres bois?
Alors, je travaille très peu le Mélèze. Je travaille le pin sambro. C'est une variété de pin de la région. Et c'est un bois qui se travaille assez bien, qui est assez fin, assez homogène. Et on arrive à faire des sculptures fines parce que c'est un bois qui a une croissance lente. Et les veines sont très serrées, c'est très fin. Voilà. Et le Mélèze, en fait, il est plutôt utilisé pour tout ce qui est construction.
Alors, nous allons passer donc, par l'atelier. Donc là, c'est quelques mètres à côté de la boutique. Hein.
Voilà. Voilà. Nous donc rentrons là, actuellement, là, nous rentrons
dans l'atelier.
Voilà. Nous sommes là, dans l'atelier, pendant que les interviews sont, en fait. Alors ici, c'est assez grand.
Ouais, c'est un peu plus grand. Et là, là on peut remarquer vraiment, décrire là, l'odeur.
Ah oui, alors là, ça sent vraiment le bois. C'est impressionnant. Plein de morceaux de bois, déjà un peu sculptés mais pas finis. Plein d'établis, plein de...
Ouais, de machines.
De machines, voilà.
Un peu étrange.
C'est
voilà. Oui, il y a des copeaux qui se coincent. Maintenant, on va faire avec la râpe. La râpe à bois. Travail de la gouge. Alors soit on pousse avec la main comme ça, avec le poignet, soit on se sert du maillet. Le maillet, c'est le marteau du sculpteur. Mm-hmm. C'est comme un marteau, mais c'est tout en bois.
Et quelles sont les familles qui sont devenues en fait sculpteurs et qui ont abandonné le métier d'agriculteur comme vous?
Ben, je vais vous dire la mienne de famille, on va dire. Voilà, donc mon grand-père, ça s'est passé comme ça. En fait, il y a d'autres familles, ça se passait pas forcément comme ça. Mais on était agriculteurs par nécessité, autrefois. Et donc, mon grand-père avait des bêtes. Et donc, l'hiver, bon, il était vraiment passionné par le bois. Il avait appris le métier avec quelqu'un du village. Et donc, il s'était mis à faire le bois un peu plus intensément, on va dire. Et puis, ça correspondait au début... du développement du tourisme, donc c'est dans les années, c'était dans les années 30, on va dire. Il a gardé quand même l'agriculture jusque dans les années 60. Et petit à petit, il s'en est détaché, on va dire.
Il y a plusieurs familles de sculpteurs à Saint-Véran.
Il y a, maintenant il n'y en a plus qu'une en fait.
La vôtre.
Voilà, la mienne.
Quel avenir voyez-vous pour ce métier-là dans la vallée là?
Alors l'avenir, il y a eu une évolution même depuis 30 ans, mais l'avenir est pas forcément mauvais. Mais après, comme dans beaucoup de domaines en ce moment, c'est vrai que ça a une tendance à ralentir, on va dire. Ça n'a pas chuté, heureusement, sinon je ne serais plus là. Mais ça ralentit comme dans beaucoup de domaines. Mais je pense que comme c'est de l'art populaire... qu'on perpétue, c'est quand même demandé. Donc, mais sur Saint-Véran, il y a, dans les années 80, il y a 30 ans, il y avait 5 ou 6 artisans différents qui sculptaient le bois. Et tout le monde arrivait à vivre, bien, en plus. C'est ça, en fait. Il y avait plus de concurrence, mais mes parents m'ont toujours dit, nous, on a travaillé à la bonne époque. Vous, c'est plus pareil. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas noir, hein, l'avenir, ça va.
Ce pain quotidien que les ménagères ont pétri elles-mêmes avec amour n'est fait qu'une fois par mois. C'est donc un grand événement, presque un jour de fête que le jour du pain.
Sur Radio Mélèze, on frit des croquants.
Et ils sont bons.
Et ils sont bons. Les croquants. C'est la première fois que je vais faire des croquants.
Je me présente. Anne Romani de Sévéran. Je suis née à Sévéran le 17 octobre 1939. Alors on fait la recette, allez.
C'est parti.
Je vais mettre la farine qu'on met un rond. Ma maman, c'était comme ça qu'elle faisait. Ma maman, c'était elle qui faisait les croquants. Avant, c'était ma grand-mère. Et puis après, c'était ma maman. Voilà, maintenant, on va un petit peu saler. Voilà, après, on met le sucre, toujours sur la farine qui est sur la planche, un peu de partout. Voilà. De la levure, on en met 2 paquets. Et puis les œufs. Ma maman, elle m'a marqué la recette, parce que j'ai une photo. Derrière, il y a, voilà, je la mets là, et puis j'ai gardé la recette, et puis elle m'a aidée le jour, hein, parce que l'année qu'elle est morte, c'était pas facile. Alors voilà, on met le beurre avec le lait. On fait en sorte que ça ne coule pas. C'est pour ça que nous rajoutons de la farine sur les bords.
Hop. Le beurre avec le lait.
Et
après,
puis le blanc en neige.
Et le blanc en neige.
Qui fait la légèreté du croquant.
Ouais. On dirait qu'il est sec, le blanc de neige.
Tu as vu, il y a la neige. Ça, c'est pour faire des meringues, tu vois, avec du sucre. Je fais cuire, ça fait des meringues. Et après, voilà, une fois que la cuillère, elle commence un peu à être sèche, on envoie les mains.
Les mains et les mains.
Hop là. Et surtout, la planche, ne jamais la laver avec la lessive. Parce qu'après, ça prendrait l'odeur. Je la fais passer sous l'eau, je la nettoie bien, qu'il ne reste pas de... Et la planche, c'est toujours la planche qu'il y a eu. C'est de ma grand-mère, c'est de ma maman, et c'est une planche qu'elle restera éternellement. C'est pour les croquants. Voilà, tout le monde l'a,
oui.
En principe. Tout le monde là. C'est quand même pas de tout repos, hein. Et pour pétrir, je pense que ma mémé, elle faisait toute seule. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas. Je sais pas comment elle faisait. Ils avaient une santé. Vous savez, ma grand-mère, la veille d'avoir ma maman, eh ben elle est allée faucher un champ en plein. La veille d'accoucher. Elle est revenue sur la charrette, certainement. Mais le lendemain, elle a accouché de ma maman. Alors, quand on pense que maintenant, on se repose, la la li, la la la. Mais eux, ils étaient... C'était comme ça. Vous voyez comme ça s'est défait. Automatiquement, il en reste un peu, mais... Ça veut dire qu'elle est presque prête. Si tout à l'heure on avait froid, on n'a pas froid maintenant, hein? Les amis, vous voyez comme elle est belle. Et voilà, fait dodo. Toc. Alors les croquants se font surtout le 16 juillet pour la fête de Clausis, qui est une fête du village de Saint-Véran. C'est la fête de Marie. Et puis voilà, nous montons à la chapelle de Clausis, ou en procession, ou à pied, ou en voiture, pour les gens qui ne peuvent plus, un peu comme moi. Et puis voilà, nous arrivons là-haut, à 11h, il y a la messe. Et après, une fois que la messe était terminée, tout le monde s'asseyait pour pique-niquer. Ma place, elle est réservée. Réservée de toute la vie, parce que mon papa, ma grand-mère, tout ça, était toujours à la même place. Moi, j'ai manqué une année, parce que mon papa y était décédé. Ma place, personne ne l'a prise. C'est extraordinaire, quand même. Hein. Et puis, alors chacun porte son manger. Donc, ces jours-là, c'était avant le jambon cru, ou le petit salé, la saucisse. Et puis, les œufs durs, ça, c'était sacré. Il y en a qui font des tartes, il y en a qui font la marmotte. La marmotte. C'est la petite bête qui est dans la montagne, qui est toute petite. C'est très bon, c'est très bon. Si vous savez ce que l'on a mangé, ça va se répéter, ça. Et puis après, mon petit vin, après le petit verre de liqueur, bien sûr, je les pique, nous n'oublions pas. Et puis à la fin, alors, tout le monde offre les croquants à tout le monde qui est assis.
Alors on prend un morceau de la pâte que l'on a fait ce matin, qui a été levée pendant 3 heures.
Ouais.
Après, on étale avec le rouleau. Alors, on fait comme ça. On la roule et on la fait le plus mince possible.
Ouais. Et comme ça, je pourrai faire tous les dessins que je peux, quoi.
Voilà, que tu veux.
Je pourrai faire des cœurs, je pourrai faire de l'écriture. Voilà, je pourrai faire tout ce que j'ai envie.
Ça, c'est la roulette, ce qu'on appelle la roulette. Je crois pas qu'il y a un nom spécial. Moi, maman, elle disait, prenez la roulette. Je découpe des bandelettes. Et puis après, je fais des petits morceaux, comme un croquant. Et après, je fais un petit trou au milieu. Donc, après, je prends comme ça. Hop, je fais un ruban. Voilà, un petit trou au milieu qui permet de plus cuire la pâte au lieu de la laisser comme ça. Et après, on tourne dans le trou, touche pas. Et ça fait une ganse. Alors, on va continuer. Voilà, on met de l'huile, bien. C'est de la tournesole parce qu'il ne faut pas ni l'huile d'olive, ni. Voilà. Alors après, on prend une fourchette et pour les tourner. Et ça va vite après, hein. Vous allez voir. Alors ça va. Après, on y met un bout de ce palais pour pas qu'il grosse. Là, tu vois, ça commence à venir. Voilà, après, on fait ça, la tchouk. Voilà, après, on met dans l'huile. Et puis, on attend que ça dore. Eh bien, à vous, on va la goûter quand il est chaud, hein. Hein? ça va. On voit de suite quand on croque. Je suis contente. Hein, parce que j'étais pas.
Tu vas en goûter un,
Marie? Prends celui-là parce que ceux-là ils sont chauds beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses?
Attends, j'ai pas encore goûté. Ils sont bons.
C'est bon, hein?
Oui.
Moi, je trouve que c'est le meilleur, ça, c'est le chou.
Une exposition très favorable permet à Saint-Véran de bénéficier des vents chauds de l'Adriatique. Ceux-ci remontent la vallée du Pô, caressent au passage le mont Viso et viennent réchauffer le village et les cultures qui l'entourent. Cette orientation en plein midi justifie l'abondance des cadrans solaires joliment enluminés.
Je connais pas les comment ça s'appelle, les cadrans solaires. Non, je sais qu'il en existe beaucoup à Saint-Véran. Peut-être une vingtaine, non? C'est moins de ça. Hein. Il y en a un dessous l'église qui est formidable. Vous l'avez vu celui-là? Mais enfin, ça doit pas être trop difficile. Vous voulez pas l'apéritif? Vous voulez pas l'apéritif?
Là, on est face à un des multiples cadrans solaires de Saint-Véran. Je crois qu'il y en a à peu près une trentaine dans le village. Ces cadrans solaires, qui ont une longue histoire, puisque l'histoire de l'interprétation de la position des ombres pour en déduire l'heure, ça remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas une histoire récente. Par contre, ce qui est récent, c'est la façon dont ils sont faits aujourd'hui et qui vont leur permettre de donner une heure, en moyennant quelques corrections, qui va être l'heure de la montre. Les heures universelles qui ont toutes 60 minutes divisées en 60 secondes, c'est une invention relativement récente, mais qui est universelle puisque ça a été adopté dans le monde entier aujourd'hui. Hein. Partout où qu'on se promène, qu'on soit chez les Chinois ou en Afrique du Sud, une heure, c'est 60 minutes divisées en 60 secondes. Il va falloir qu'on fasse un certain nombre de corrections pour convertir l'heure solaire en heure de la montre. Alors ces corrections, elles sont nombre de 3. La première, c'est ce que je vais appeler l'heure politique. Hein. Ici, en France, en été, l'heure légale est décalée de 2 heures par rapport à l'heure du méridien central de notre fuseau horaire. C'est celui qu'on appelle le méridien de Greenwich, et en France, comme on est un tout petit peu chauvin, on l'appelle aussi le méridien de Saumur. Il y a une deuxième correction qu'il va falloir appliquer, c'est que par rapport à ce méridien zéro, on est légèrement à l'est ici. Donc il va falloir qu'on introduise une deuxième correction dû à la longitude. Et quand on fait le calcul, hein, j'épargne un petit peu les détails, le résultat c'est 28 minutes. Donc on a un écart à nouveau de 28 minutes. Et puis il y a une troisième correction qui est un tout petit peu plus subtile, qui est due simplement au fait que lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle ne décrit pas un cercle, elle décrit une ellipse. Ça va induire une troisième correction qu'on appelle l'équation du temps, qui veut dire égalisation. Donc c'est la troisième correction qu'on va devoir appliquer pour avoir la conversion complète entre l'heure solaire et l'heure de la montre. Et actuellement, on a juste une petite minute de décalage en positif.
Ah, je vais le noter.
Alors voilà, maintenant, quelle heure est-il au cadran? Alors là, je vous avouerai que on va être obligé de faire un test avec les gens parce que là, j'ai pas pris mes lunettes et je vois rien du tout sur le cadran. Il est un peu loin.
D'après vous, là, il serait quelle heure sur ce cadran solaire là?
Il serait 8h35.
Je ne sais pas. Non, je ne vois pas d'ici.
Et j'ai l'impression qu'il est par demi-heure, donc 11h30, 11h, 10h30. J'ai l'impression que ça va être 10h30 au soleil.
Il faut partir d'où? Il faut lire comment?
Alors, vous voyez l'ombre du style, vous la voyez sur le cadran.
Ouais.
Et vous voyez l'ombre de la petite rondelle, là, si on peut s'exprimer ainsi, avec un trou à travers. Et donc, ce petit trou, il est actuellement sur une ligne. Alors, ce que je ne vois pas, c'est le chiffre qui est écrit dans le rond bleu, au bas
plus.
De la ligne.
Moi non plus, donc je ne sais pas.
On va regarder sur un autre, hein, parce qu'il y en a d'autres, notamment celui qui est juste au-dessus, là. Lui, il est au soleil aussi. Vous voulez nous accompagner jusque dans la cour de l'école?
Bonjour, Radio Mélèze, d'accord.
On est en train de parler des cadrans solaires.
Bon, ok.
Vous savez dire l'heure, vous, sur les cadrans solaires?
Oui, il n'y a pas de problème.
Il serait quelle heure?
J'en sais rien. Faut que je mette mes lunettes. Ah. Allez, Dominique, dites-le-moi.
Manifestement, personne ne sait lire l'heure solaire ici.
Ah oui, non, mais oui. Oui, bah, par rapport à l'ombre portée par l'aiguille, enfin, je sais pas comment on appelle, c'est un nom. Le style?
Alors, qu'est-ce que je vois? 10, 11 heures? Ouais, c'est 11 heures. 11 heures. Donc, ouais, non, 11 heures sur l'écran indiqué, plus 2. Plus 2 heures de décalage solaire, non? C'est ça? C'est ça ou pas?
Alors voilà, maintenant, quelle heure est-il au cadran?
L'ombre est entre le 10 et le 11, donc 10h30 sur le point.
Alors, il n'est pas 10h30, mais si on reprend mon histoire de correction de tout à l'heure. L'heure légale, ici, en France, elle est en avance de 2h sur l'heure du soleil. Donc 10h30, 12h30, on ajoute 2h. Mais, comme je disais aussi tout à l'heure, on est à l'est, c'est-à-dire que là, on n'a pas encore atteint le méridien zéro. On est à 28 minutes du méridien zéro. Donc ces 28 minutes, il faut les retirer des 2h. 1h32. 1h32, et je disais tout à l'heure aussi qu'on a à peu près une minute de correction à l'heure, à la date actuelle, due à l'équation du temps. 1h31. On prend 10h30, on va ajouter 1h31, il est midi 1, midi 2. Je sais que celui-ci est précis à 2-3 minutes près. Quelle heure est-il, messieurs, dames ?
Midi 5.
Donc on est à 3 minutes.
La radio Mélèze, en fait, c'est une radio qui te met à l'aise.
Saint-Véran est entouré de prairies qui constituent sa principale richesse. Les animaux qui pendant 8 mois sont restés enfermés vont vivre pendant l'été la vie heureuse des pâturages d'altitude.
Je sais ce que c'est un vrai berger. Il s'occupe des animaux. Il s'occupe des animaux. Un berger, c'est ceux qui surveillent les moutons. Ils ont un chien. Ils surveillent leurs moutons. Ils les soignent. Et il leur fait bouger. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai déjà rencontré un berger.
Alors Jean-Pierre Imbert, donc éleveur à Saint-Véran, est installé sur une exploitation que j'ai complètement créée depuis 1981. Depuis tout petit, on était confronté à tous les travaux qu'il y avait sur l'exploitation, et entre autres le gardiennage, que ce soit des vaches, des génisses ou des brebis. Donc comme j'aimais ça, j'étais voué à travailler chaque fois que c'était possible sur le gardiennage.
Là ici on est à Arvieux, on est au clos d'Arvieux. Du coup on fait une grande fête où il y a plein d'ateliers. On fait goûter des fromages, on fait manger, il y a un peu de tout, il y a des activités, un grand barbecue à la fin. Il y a la traite des vaches. En fait, c'est la fête pastorale, c'est une fête qui est surtout sur la pastorale, ça a à voir avec les vaches.
Le pastoralisme, c'est la méthode ancestrale du mode d'élevage, quoi. Hein. Pastoralisme, c'est un mode d'exploitation qui va suivre l'évolution de la nature, quoi. Voilà. On nourrit les animaux, quelle que soit leur catégorie, avec la végétation qui va commencer à pousser bas en vallée, en basse altitude, et qui poussera plus tard, dans les mois d'août, sur les hauteurs. Voilà. Et après, on fait marche arrière là-dessus. Voilà. Pastoralisme est là. Maintenant, le pastoralisme aujourd'hui a pris une place beaucoup plus importante parce que il y a beaucoup d'entretien de l'espace qui se fait par l'intermédiaire du pastoralisme.
Les bergers, c'est ceux qui s'occupent des moutons. Ils les font descendre dans les prés l'été pour qu'ils viennent brouter l'herbe. Et en hiver, ils les amènent dans des fermes pour pas qu'ils aient froid. Et les bergers, ils regroupent toute l'herbe pour que l'hiver, ils la mettent dans la ferme pour que les moutons puissent manger.
je ne sais pas ce que ça peut m'apporter. C'est tellement... c'est indescriptible, quoi. Moi, je suis né là au milieu, j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours aimé la nature. Je veux dire, ça fait partie de ma vie, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai eu beaucoup. Enfin, j'ai démarré avec des brebis. J'ai vendu les brebis pour mettre des vaches et j'ai revendu les vaches pour remettre des brebis parce que je retrouvais pas le lien affectif avec les vaches comme je l'ai avec les brebis, quoi. Les brebis, j'arrive au milieu du troupeau, j'ai pas besoin de les appeler, hein, elles entendent ma voix, ça débarque, quoi. Pour moi, c'est pas un métier d'abord, c'est une passion. C'est le premier truc. Et cette passion-là, elle arrive au fil des jours, du temps et tout. Hein. Il y aura d'autres personnes après moi, mais je pense qu'on sera. Le pourcentage, il va aller en diminuant sérieusement.
Je suis Olivier Briseville et je m'occupe du groupe de Corps des Alpes, des Brillants Sonneurs. Voilà, le groupe de Corps des Alpes, des Hautes-Alpes en fait, puisqu'il n'y en a qu'un. Corps des Alpes, c'est le téléphone portable des bergers. En général, on présente ça comme ça. Et c'est vrai que c'était l'utilité première, c'était de communiquer dans les vallées. Le son porte à 17 km et par des messages musicaux, les bergers arrivaient à se comprendre et même avec les gens de la vallée, chaque message était connu de tout le monde et avait un sens.
Un mouton, c'est... Allez, c'est quoi encore Ça a des poils blanches, mais c'est tout doux, on peut les mettre en cage, oui. Aussi, on peut faire des lits, on peut faire des coussins, des pantoufles ou des chaussures. Voilà. Et les moutons, ça, il y a la femelle, je ne sais pas, elle fait des bébés. Et les bébés s'appellent. Allez, je ne sais plus. Les agneaux. Et les agneaux, c'est très fragile si on cogne dessus. Ils sont blessés, on doit les prendre et on doit les mettre à l'hôpital. Et voilà.
Se chauffent au dernier rayon du soleil d'été.
Un cul fait bien, mais il y a du jeu, la plougue. La plougue. Mais la fête est bien. La fête est bien. La nature, toute l'agriculture est contente. De quelle pluie. Et les truffes, fait de bien.
Il a plu pendant 3 jours. Et ça a fait beaucoup de bien aux cultures, parce que pour la culture des pommes de terre, l'eau manquait. Hein, l'eau manquait.
Et bien voilà, moi je m'appelle Joseph Brunet. Je fais partie des vieux du pays. Si mes parents ne se sont pas trompés dans ma date de naissance, quand ils m'ont fait enregistrer, j'ai pris 80 ans au mois de mars. Les gens de mon âge, à Seillac et à Arvieux, ils parlent encore bien entre eux, pas toi. Hein.
Ouais.
Entevas, Entevenes, c'est...
Anadaïzi.
Anadaïzi, c'est connu. C'est connu. Je l'ai entendu toute ma vie. Alors, c'est resté un peu ancré. Je n'ai jamais bien pratiqué. Le langage, quelquefois, ça zozote un peu, mais voilà. Et Robert est né dans un pays aussi où on parlait patois, pas très loin d'ici, à une quarantaine de kilomètres. Donc voilà, Robert a entendu ses parents aussi parler patois.
Je suis né dans un village voisin, près de Guillestre. Bon, et je suis resté dans cette région jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis après, je suis parti faire des études à Paris et je suis toujours resté à Paris. Mais je suis resté fidèle au pays et je viens régulièrement. Beaucoup de gens croient que le patois, c'est une déformation du français et que ce sont les pauvres gens, le pauvre montagnard paumé ou enfin de toute façon les gens de la terre qui prononcent mal le français, qui ont estropié et qui ont créé leur propre parler, qui est une déformation du français. En fait, ça n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Le patois est un intermédiaire entre le latin et le français. Voilà. Et c'est qu'à partir du latin, il y a eu plusieurs voies pour arriver au parler d'aujourd'hui. Il y a eu la voie de l'italien, il y a eu la voie de l'espagnol, du portugais, du français, même du roumain. Bon, et c'est une voie particulière. Et il y en a eu plusieurs, parce qu'il y a eu plusieurs patois. Voilà.
Je chante bien. Allez, chante Marie.
Dans le vocabulaire, il y a un nombre de termes, de mots qui est relativement réduit dans le patois d'ici. Mais en même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, qui est très riche, c'est-à-dire de mots qui n'ont pas leur équivalent en français, qui traduisent des nuances incroyables qu'on n'arrive pas à traduire en français. Par exemple, je vais vous citer plusieurs exemples. Surveiller en se cachant et de façon indiscrète pour écouter éventuellement une conversation qu'on ne devrait pas entendre. Ou pour voir, surtout, on dit chourayer. Chourayer.
Chourilla.
Chourilla. Chourilla. Ces mots d'origine patois qui traduisent souvent une nuance difficile à trouver l'équivalent exact en français, pour les personnes qui étaient, j'allais dire, en équilibre entre le français et le patois, ceux qui avaient 15, 20 ans, 25, leur tendance, c'était, quand ils parlaient français, de franciser certains mots de patois. Et moi, j'avais une grand-mère qui était la grande spécialiste. Alors, ma mère ne voulait pas qu'on se livre à cet exercice de franciser des mots patois. Alors, quand ma grand-mère disait se baruler, ma mère lui disait très poliment, « Mais enfin, maman, tu sais comment on dit en français ? En français, on dit « tomber ». Alors, l'autre, la grand-mère, elle riait aux éclats. Ça risquait pas de l'humilier. Elle riait, puis elle recommençait 2 minutes après.
Voilà, et là, je dis merci.
Petit cours de danse. Avec la montagne en arrière.
J'ai connu un vieux qui habitait au bout du village, au Soum, ça vient du Mont Sommet, les extrémités s'appelaient le Soum. Il s'appelait Daniel Sibyl. Mon père m'envoyait lui aider à travailler, peu cher, un petit bonhomme, pas très grand. Et il me disait, quand t'en as vous score, you are you de chance, et vous petit, le maître. Mais quand on parlait même pas toi, entre nous, il parlait pas toi, tenions le picofio, et you et vous petit. Passavo su Staures e mi donavano dei picchi feu sulla testa. Ah, ouais.
il était petit, alors il pouvait se faufiler sous les tables et ne pas recevoir la correction avec le pique-feu du maître d'école qui interdisait de parler patois. En 1925, ça a été interdit parce que on voulait que tous les Français, loi laïque et républicaine, tous les Français parlent la même langue, qui était le français. Un point, c'est tout. Les langues régionales, allez vous faire foutre ailleurs. Bon. Et c'est à cet âge-là qu'on a interdit le patois dans les écoles publiques. Voilà.
Ma mère, qui était de 1898, parlait patois avec mon père, avec les autres. Alors, à force de l'entendre, de l'entendre, de l'entendre, hein, à l'école on parlait français, mais... J'ai souvenir d'avoir vu les anciens chanter, danser la signure. Hein. Voilà, c'était tout en patois, ça. Mais ce fait une signure, près bala et près dansa, ça je me rappelle de ça. Même l'air, mais bon. C'était... Et ils dansaient, ils étaient vivants beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et pourtant, ils n'étaient pas plus heureux que ce qu'on est aujourd'hui. Mais ils dansaient le dimanche. Ils se trouvaient, ils se rassemblaient, ils jouaient au boule, ils faisaient des veillées, tout ça. Tout ça, ça a disparu. Avec le progrès, la voiture, la télévision, les téléphones.
À l'ombre t'as d'un buisson, mais la berzère à l'endurmia.
Ah, mais ça, je.
C'est très joli français, malandé ma belle berzère, voulez-vous danser? Quando ero piccione, ma mère mi branlavo, maintenant su grande, mi branlo tu su re.
Le travail quotidien n'est pas encore terminé. C'est maintenant la traite du soir. Reçu leur ration de fourrage pour la nuit. Les poules sont déjà couchées. Les tout-petits vont en faire autant. Bientôt, ce sera l'heure des plus grands.
Je m'appelle Dominique Ménel. Nous sommes actuellement dans l'observatoire de Saint-Véran, le plus haut observatoire d'Europe, qui vient juste d'être rénové pour permettre l'accueil dans de meilleures conditions à la fois des astronomes et puis depuis quelques jours maintenant du public qui souhaite venir passer une nuit d'observation ici.
Suivez-moi.
Alors, donc, bienvenue dans la coupole historique. Alors là, on a le télescope de 62 cm. Donc nous, on observe...
Saint-Véran, c'est devenu depuis une bonne quarantaine d'années maintenant un des hauts lieux de l'astronomie en France, puisque Saint-Véran avait été choisi à la fin des années 60 pour accueillir ce qui aurait été à l'époque le deuxième plus gros télescope au monde. Si Saint-Véran avait été choisi dans les années 60... pour y installer un gros télescope, c'est parce que le site bénéficie d'une qualité de ciel qui est sans égale, au moins en France, voire en Europe. Donc ça, c'est le début de l'histoire de l'astronomie à Saint-Véran, qui a failli s'arrêter assez rapidement, puisque le télescope en question, et une fois construit, il a été installé directement au sommet du Mauna Kea, un volcan éteint des îles Hawaï, qui bénéficiait d'un ciel encore un tout petit peu meilleur que celui d'ici. Mais heureusement, l'histoire s'est pas arrêtée là immédiatement, puisque les astronomes qui avaient présidé au choix de Saint-Véran pour installer ce très gros télescope ont quand même profité des infrastructures qui avaient déjà commencé à être mises en place ici pour mener une autre expérience avec un appareil un peu différent, un coronographe, un appareil destiné à l'examen de la couronne solaire, l'étude de la couronne solaire. Cette expérience a duré pendant 8 ans, avant que l'observatoire soit laissé fermer jusqu'en 89, date à laquelle une association est créée à Astroquera à l'instigation d'Observatoire de Paris pour y accueillir, cette fois non plus des professionnels, mais des astronomes amateurs.
Donc on va continuer la visite par ici et on va voir la salle de contrôle.
Je m'appelle Pascal et je viens régulièrement donc à l'observatoire du Pic de Château-Renard. Je suis passionnée d'astronomie depuis très longtemps. Toute petite, je connaissais déjà le nom de pas mal d'étoiles. J'étais déjà très fière de pouvoir prononcer leurs noms difficiles et j'ai même construit mon télescope. Et c'est avant tout l'observation qui me plaît. Je suis contente de voir ces petits objets qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle les objets donc du ciel profond. Quand je les trouve avec mon télescope, je suis émerveillée.
Réveil aura suffi. Ça n'a pas été trop dur de me lever, et puis la satisfaction en mettant le nez à la fenêtre de voir que c'était bien dégagé. Ouais. C'est une petite heure d'avance, on s'en sort bien.
Vous avez réussi à dormir un peu ?
Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ça fait du bien. Il faisait une telle chaleur dans la chambre.
Et aussi, on voit la Voie lactée ici, qui traverse tout le ciel. La Voie lactée, c'est le plan de notre galaxie. Les petites zones lumineuses, c'est des étoiles qui sont tellement lointaines qu'on n'arrive pas à les distinguer les unes des autres, devant lesquelles il y a des nuages de poussière. Ici, il y a une petite zone sombre, c'est un nuage de poussière qui est venu s'intercaler. Toutes les étoiles qu'on voit, à gauche comme à droite, sont dans la Voie lactée, physiquement. Mais cette petite zone un petit peu plus lumineuse, C'est le plan, c'est les étoiles qui sont beaucoup plus lointaines.
Il y a une fascination à regarder le ciel parce que on est face à une espèce d'infini, on est un peu face à soi-même hein, quand on regarde le ciel, et on est aussi, je crois qu'on participe chacun à notre tout petit niveau, notre modeste niveau, à la quête des origines. Hein, parce que regarder le ciel, c'est aussi aller vers la quête des origines, c'est-à-dire tâcher de comprendre un peu d'où on vient, qui on est, pourquoi tout plutôt que rien. Enfin, on a fatalement et forcément des interrogations qui virent un petit peu vers la métaphysique. Essayer d'en savoir plus. L'astronomie, c'est une des disciplines qui permet de comprendre ce qu'est l'univers qui nous entoure et pourquoi on est là. Même chez les observateurs qui ne font que de l'observation, c'est une préoccupation qui est un petit peu sous-jacente en permanence.
Je vais éteindre les lumières. Si vous avez des lumières rouges, vous pourrez les allumer si vous en avez besoin. Si vous avez des lumières blanches, il vaut mieux éviter parce qu'elles éblouissent beaucoup plus. Allez, on va commencer par observer une étoile. Je vais tout de suite vous la pointer au laser pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble sans télescope. Une étoile qui s'appelle Albireo, qui est l'équivalent du bec du cygne que j'ai montré tout à l'heure. Est-ce que au fur et à mesure que vous observez, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous constatez en observant cette étoile ? Il n'y a pas de piège.
Il y en a deux.
Donc par exemple, à l'œil nu, nous ne voyons qu'une seule étoile, et c'est le télescope qui nous montre que cette étoile est une étoile double. C'est le cas d'à peu près un tiers des étoiles.
Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'ici on est à 3000 mètres d'altitude. Si on jette un petit coup d'œil par les fenêtres de la salle dans laquelle on se trouve, on voit pratiquement aucune trace de vie nulle part ailleurs. On est dans un milieu isolé, c'est l'occasion de se ressourcer, c'est l'occasion de encore une fois, comme je disais, de se mettre un peu face à soi. Il y a cette espèce de jubilation qui fait que Les gens qu'on reçoit ici ont tous un petit peu cette interrogation dans le public qui vient, dans le public de visiteurs. J'interrogeais encore les gens ce soir qui sont venus. Ils viennent mettre l'œil à l'oculaire pour la première fois et ils sont mus par cette curiosité, cette interrogation qui nous agite tous finalement.
Allez, chiche, je laisse l'artiste, chiche. Moi, je veux bien.
Tu veux bien quoi ?
On rigole, mais faire les coquins. Pour là-haut, à l'observatoire. Et il me pose des questions. La coquine.
Au cœur de ces montagnes, au sommet encore éclatant, Saint-Véran s'est éveillé au soleil d'été.